Matthias Wirtz.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes donc à l'église évangélique de Merin, comme dimanche dernier, pour un deuxième culte de cette communauté membre de la Fédération romande d'églises évangéliques, la FRAE. C'est Laurent Deschanel qui assure la prise de son ici à mes côtés. Mathieu Ramsauer est en régie à Lausanne. Et pour la prédication, ce sera Philippe Anchaud ce matin. Il est pasteur ici à Merin depuis 2017, après un long ministère dans une église évangélique en France. Et son message du jour se concentrera sur la question du pardon. Le pardon donné ou reçu traverse la Bible de part en part. Mais dans nos vies, est-ce qu'il est toujours possible de pardonner? Et comment faire résonner le pardon avec la justice? Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bienvenue à vous pour ce temps de célébration. L'Église évangélique qui nous accueille ce matin à Merin se définit comme une communauté chrétienne ouverte, désireuse de mettre les gens en relation avec Dieu et les personnes les unes avec les autres. Ses membres veulent aborder les défis du quotidien Bible en main en s'impliquant dans la vie de la cité. C'est donc une communauté qui plonge ses racines dans le réveil protestant du 19e siècle. Cette communauté vient de Colovray, elle se constitue concrètement à Merin dans les années 60. Et pour ses célébrations, elle a longtemps utilisé la chapelle protestante du village de Merin. Mais avec les années, le lieu devient trop petit. Et depuis 2005, un nouveau bâtiment juste à côté abrite donc toutes les activités de cette église évangélique. Et c'est là que nous sommes ce matin pour le culte. À côté du pasteur du lieu, Philippe Anchaud, que j'ai déjà cité, il y a Joël Dupertuis pour la liturgie. Et c'est le groupe Hortus qui animera la célébration. Un groupe de louanges composé de deux voix et quatre instruments, avec aux commandes le compositeur et guitariste Mathieu Schmitt. Place donc tout de suite à la musique.
Merci à tous ceux qui sont investis pour ce culte, devant, sur la scène, en particulier Hortus, mais aussi à tous ceux qui s'engagent en retrait ou de manière plus discrète. C'est Dieu qui nous accueille ce matin. Lui qui aime sa création, lui qui nous aime, il nous aime nous, par-dessus tout. Il m'aime moi, il t'aime toi. Chacun de nous, individuellement. Il nous aime en tant que création, mais il aime aussi son Église, malgré tous ses défauts, malgré tous ses manquements. Et même si nous sommes parfois loin de lui, éloignés, on peut se sentir déconnecté, ben il nous invite à nouveau à le suivre, à nouveau à nous approcher de lui, car Dieu nous fait grâce. Et cette grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et pourtant, il nous pardonne. Il nous relève et il nous donne sa paix. Il nous éclaire chaque jour. Effectivement, on parlait de la chandeleur, Dieu est lumière. Et à plusieurs reprises dans la Bible, il se révèle parfois dans des feux, dans des lumières. Il y a le buisson ardent, la colonne de feu dans le désert. Il y a l'étoile qui guide les bergers jusqu'à un petit bébé, le Christ. Et surtout, il y a Jésus lui-même qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et dans sa lumière, il n'y a plus de ténèbres, plus de peine. C'est sa victoire. Vous pouvez le vous lever, chanter.
Chaque jour, oh, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Oui.
De sacrifice, et pourtant Dieu est toujours resté. rester un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, patient, plein d'amour. J'ai juste le début du psaume 85. Seigneur, tu as montré ta faveur au pays qui t'appartient.
Tu as rétabli les descendants de Jacob. Tu as déchargé ton peuple de sa faute. Tu as pardonné tous ses manquements. Tu as retenu ta colère. Tu as renoncé à t'emporter contre nous. Alors je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu as montré ta faveur à ton peuple. Tu nous montres ta faveur à nous aussi aujourd'hui. Et cette grâce, ton pardon, je ne le mérite pas. Tu n'as pas attendu que je fasse la moindre bonne action de mon côté, alors que cette grâce, qu'elle me permette de vivre dans ta lumière, qu'elle me permette d'être à mon tour lumière, et que tu me conduises, que tu nous conduises ensemble dans la louange, dans l'adoration de qui tu es, dans l'écoute de ta parole, et que nous puissions avancer à ta suite, car nous sommes tes témoins ici, entre nous, et surtout dans tous les endroits où tu nous as placés. Amen. Et on continue à chanter que cette grâce, que nous puissions nous approcher de lui, Dieu de lumière, Dieu éternel, qui est pourtant comme un Père plein d'amour.
Près de toi. t'ont ébloui.
Il y a bien des mystères, des choses qui nous dépassent avec Dieu. Il est bien au-delà de nos conceptions, de certaines représentations qu'on pourrait se construire. Et pourtant, il se révèle au travers de la Bible. Il se révèle à un peuple et il se révèle à toutes les nations. Il se révèle à nous. Oui, Dieu m'aime, il me fait grâce, il me pardonne. Il est la lumière du monde, je peux m'approcher de lui. Mais ce n'est pas seulement sur mon expérience personnelle, sur mon ressenti que je m'appuie. À partir des Écritures, il y a des éléments essentiels, un peu mystérieux, qui fondent notre foi, qui fondent le christianisme. Il est Dieu, un. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors je vous invite à chanter « Oui, je crois ».
Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois. Jugé défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi, descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois. Que
fois, oui, je crois.
Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois. Que d'une Virgile est née, je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom.
Seigneur, nous croyons en toi. Je crois en ta parole. Je crois en cette Trinité qui me dépasse et que j'ai parfois de la peine à comprendre. Je crois en ton sacrifice. Je crois que tu nous parles encore aujourd'hui. Par ton esprit, que tu nous permettes de comprendre, d'intégrer qui tu es par ta parole, par la Bible, et que tu ouvres mon cœur et mes oreilles à ce moment de méditation, de prédication, pour que nous puissions grandir en toi. Amen.
Amen.
Alors vous pouvez reprendre place.
Bonjour à chacun et à chacune. Voici une parole forte que Jésus nous a apprise et a rendue possible. Une parole forte que nous trouvons et que nous connaissons plus ou moins par cœur, en Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est une question qui est régulièrement posée lors des grands procès. On veut savoir si l'accusé reconnaît les faits. On veut l'entendre demander pardon à la famille, à ses victimes, à la famille de ses victimes. Quand la télévision interviewe les parties civiles après l'annonce du verdict, elle pose parfois la question du pardon. Et parfois, les gens disent: j'ai de la haine. Je ne peux pas pardonner. Je ne pardonnerai jamais. Et on les comprend. Plus rarement, vous entendrez une parole de pardon tout à fait étonnante. Et vous vous demanderez si ceux et celles qui parlent ainsi n'ont pas, à quelque part, un arrière-plan chrétien, une culture chrétienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a donc un lien entre le pardon et la justice, ou plutôt entre le pardon et l'injustice. Mais c'est un lien compliqué. Alors nous allons faire un voyage dans le temps jusqu'en l'an 30 de notre ère, ou à peu près l'an 30. Et nous allons écouter une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27.
Matthieu 27, les versets 15 à 26. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée: qui voulez-vous que je vous libère ? Barabbas ou Jésus, qui est appelé le Christ? Pilate savait bien en effet que s'il lui avait livré Jésus, c'était par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message: « Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme qui est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»«
Barabbas !»
lui répondirent-ils. « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent « Crucifie-le !»«
Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Crucifie-le !»
Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas, il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'il soit crucifié.
Dans les cachots de Jérusalem, gardés par des soldats romains, se trouve un assassin. L'homme qui a tué l'un de vos proches. L'homme qui a tué l'un de vos proches. Cet homme s'appelle Barabbas. La Bible dit qu'il a été emprisonné pour un meurtre commis lors d'une émeute. Vous savez qu'il va payer. Vous savez qu'il va être exécuté. Et vous êtes un homme ou une femme du premier siècle. Vous pensez que c'est normal, que c'est juste. La mort de Barabbas ne va pas ramener à la vie votre fils, votre fille, votre mari, votre frère, votre père. Mais au moins, Barabbas aura reçu ce qu'il mérite et vous pourrez faire votre deuil, comme on dit. Et puis, coup de théâtre, vous apprenez que par la volonté d'un seul homme, un gouverneur romain, Barabbas, l'homme qui a tué l'un de vos proches, va pouvoir partir libre comme l'air. C'est quoi votre sentiment? Mais c'est un sentiment de colère, d'une double injustice. Non seulement Barabbas vous a-t-il privé d'un être cher, mais en plus, il échappe à toute punition. C'est exactement ce qui se joue d'un certain procès. Les faits sont là, à tout jamais. Mais si la justice passe, alors d'une certaine façon, les choses rentrent dans l'ordre. Et si les coupables s'en tirent à bon compte, nous trouvons que ce n'est pas normal. Nous pourrions même être tentés de nous faire justice nous-mêmes. Parce que dans le pardon, il y a fondamentalement quelque chose qui n'est pas normal. Et on demanderait à Dieu de nous pardonner. D'abord, avouons-le, hein, c'est un peu incongru. Nous n'avons ni tué ni volé. Et puis à supposer que nous ayons réellement fait quelque chose de grave, eh bien demander le pardon, ce ne serait pas juste. Notre demande de pardon, si on a fait quelque chose de grave, va heurter la conscience de ceux que nous aurions lésés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si Dieu ne s'occupe pas de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, alors personne n'a à lui demander pardon de quoi que ce soit. Mais si Dieu tient à la justice, alors il n'a aucune raison de nous pardonner. Voyez la tension ? Il faut qu'on la regarde d'un peu plus près. Dieu s'occupe-t-il de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste ? Est-ce que ça l'intéresse ? Moi, je crois que les gens le pensent. Parce que quand les choses vont, vont de travers, ils en veulent à Dieu. Ils se plaignent. Ils disent, mon Dieu, ce n'est pas juste. La Bible dit que Dieu s'intéresse à ce qui est juste et pas juste. Il donne des lois, les 10 commandements, par exemple. Il jugera le monde, nous est-il dit. Il exige que celles et ceux qui s'approchent de lui soient propres, purs, justes, saints, ont à enseigner ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Michée 6, verset 8. La Bible dit que Dieu s'intéresse à ce qui est juste et à ce qui n'est pas juste. Et quand la vie les malmène, les gens de la Bible se plaignent auprès de Dieu. David dans les psaumes, Job, le prophète Jérémie, Jonas, tous réclament la justice. S'il n'y avait pas de Dieu, il n'y aurait personne à qui se plaindre. Il n'y aurait que le hasard et la nécessité. Il n'y aurait aucune raison de se plaindre. La nature ne se plaint pas du cycle de la vie et de la mort. Les humains s'en plaignent. Et contrairement aux bactéries, aux moustiques, aux souris et aux lamas, ils en appellent à une justice supérieure. Dieu a inscrit dans la conscience humaine certaines notions élémentaires de justice qui ressortent tout le temps. Pardonne-nous nos offenses. C'est donc qu'il y en a des offenses. Et que nous en avons tous et toutes commis des offenses. Je n'ai ni tué, ni volé. C'est très superficiel de dire cela. Ok, sur le plan pénal, ça marche. Mais sur le plan plus personnel, j'ai sans doute dit et pensé des choses qui ont semé la mort dans l'âme de quelqu'un. J'ai blessé. J'ai négligé de guérir une blessure. J'ai négligé de porter secours. J'ai peut-être triché. J'ai peut-être été pris dans un engrenage. J'ai menti. J'ai négligé la générosité. J'ai été infidèle. Inoxydable, moi ? Ah non. Je sais bien qu'il y a des taches de rouille. Pardonne-moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez vous, à la maison, quand il y a de petits accrochages entre mari et femme, entre conjoints, entre parents et enfants? À un premier niveau, j'espère qu'il ne se passe rien du tout quand il y a des petits accrochages. Parce que l'amour fait que nous passons sur quantité de choses. Heureusement. À un deuxième niveau, j'espère que nous arrivons à dire « J'ai eu tort. Tu sais, je regrette. J'ai réagi trop vite, trop fort, trop bêtement. Pardonne-moi. » J'espère que nous arrivons à demander pardon et à accorder le pardon. Il y a eu un tort. Il faut le reconnaître. Il faut que la personne blessée le reconnaisse et que la personne qui a blessé le reconnaisse. Et là, on peut pardonner. Sans autre forme de procès, on peut pardonner. Et puis il y a parfois un troisième niveau. C'est quand la justice doit être saisie. Abus, violence, harcèlement, privation. Certains actes doivent être condamnés par la loi. La justice doit passer. Le pardon individuel dans ces moments-là n'est plus la seule considération, en particulier quand l'intégrité physique ou morale d'une personne est mise en cause. Si nous restons dans le cadre familial habituel, bien sûr que nous ne relevons pas toutes les fautes. Nous pardonnons sans exiger que l'autre paie. Je l'espère en tout cas. Nous n'avons pas, nous, à nous poser comme des défenseurs de ce qui est vrai et juste. Nous sommes en fait tellement habitués à vivre dans un monde imparfait, avec des êtres imparfaits, en étant nous-mêmes imparfaits, que le péché n'est plus tellement un problème pour nous. Il devient regrettable, ouais, c'est nul, c'est dommage. Mais on fait avec, sans toujours le reconnaître, le péché. Alors pourquoi faudrait-il demander pardon à Dieu pour tout? Pourquoi il ne peut pas simplement passer dessus, puis voilà? Pourquoi Dieu s'occuperait-il de nos peccadilles? Ah, la raison, elle est toute simple. C'est que Dieu est l'origine et le garant de toute justice. Il s'en préoccupe de la justice dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Il a inscrit sa loi dans les consciences. Il l'a révélée aux prophètes. Il l'a rendue concrète, vivante en Jésus-Christ. Dieu tient à la justice. Pardonne-nous nos offenses. Cela revient-il à dire à Dieu, eh ben, oublie donc la justice? Non. Non, parce que je vais devoir payer s'il oublie la justice. Parce que je vais souffrir moi-même. Parce que je vais devoir me réformer. Parce que je vais devenir très pratiquant. Au Moyen-Âge, les personnes riches auraient dit, parce que je vais payer des gens pour qu'ils prient pour moi, pour que Dieu soit indulgent. Je peux m'en sortir, non? Je peux me racheter une conduite, je peux me racheter une impeccabilité, non? Ben manifestement, non. Un criminel, il peut tenter de régler sa dette envers la société. Mais nous tous et toutes, envers Dieu, il y aurait tant de choses qui mériteraient que sa justice passe. Dans un vieux cantique que j'affectionne, le compositeur Ruben Sayans le dit de cette manière. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains, alors même qu'en ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse. Ils ne sauraient me laver, toi seul, peu et veut me sauver. Oui, si salut il y a, il ne peut venir que de Dieu. Une délivrance qui respecte la justice de Dieu et qui manifeste l'amour de Dieu. Le grand pardon? Le grand pardon? Est-ce possible? Pour répondre à cette question, nous allons écouter un poète un peu plus ancien que Ruben Sayans, puisqu'il a vécu 700 ans avant le Christ. Il s'agit du prophète Ésaïe, et dans son poème, il imagine quelqu'un qu'il appelle le serviteur de l'Éternel. Ce serviteur va faire beaucoup de choses, et surtout, il va réconcilier la justice de Dieu et le pardon de Dieu. Le poème commence avec ces mots.
Ésaïe 52, verset 13. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Ensuite, on découvre que le serviteur sera complètement rejeté par les humains, méprisé, abandonné.
Et puis le prophète arrive au cœur de son message.
Ésaïe 53, versets 3 à 6. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur.
Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
Le châtiment, c'est pour que la justice soit satisfaite. Donner la paix, c'est pardonner. Je cite de nouveau.
Ésaïe 53, 9 à 11. Il a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes.
Les chrétiens n'ont aucune difficulté à voir dans ce serviteur de l'Éternel la personne de Jésus-Christ, qui prend sur lui le poids de nos fautes et qui nous en libère. Pleinement homme, l'un de nous, il subit la justice divine à notre place. Pleinement Dieu, il s'offre lui-même pour nous. Et notre pardon est acquis. Mais ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. C'est plus que juste. C'est généreux. C'est divin. Pardonne-nous nos offenses. Ça, je peux le prier aujourd'hui parce que je sais quel est le prix du pardon. Parce que je sais que Dieu n'a pas jeté aux orties sa sainteté. Parce que je sais qu'en Christ, à la croix, l'amour et la justice de Dieu se retrouvent et que je peux en être, moi, le bénéficiaire. Pardonne-nous nos offenses. C'est toute l'Église qui prie ainsi. Ce sont les chrétiens qui reconnaissent qu'ils ne sont pas à la hauteur et qui viennent demander pardon à celui seul qui peut leur pardonner. Comme nous pardonnons. Parce que le pardon reçu de Dieu induit normalement, logiquement, une attitude généreuse à l'égard de ceux et celles qui nous ont fait du tort. Je n'ai pas à m'ériger en juge. Je n'ai pas à me venger. Je peux confier toute injustice à Dieu et dans certaines situations, confier ces injustices aux magistrats que Dieu a voulu pour réguler les affaires des hommes. Et je peux même dire, comme Jésus, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me libère ainsi d'une immense charge. Et je prie pour la conversion de ceux qui m'ont fait du mal. Faites ce voyage dans le temps, jusqu'en l'an 30 de notre ère, ou à peu près l'an 30. Dans les cachots de Jérusalem, gardés par des soldats romains, se trouve un assassin, l'homme qui a tué l'un de vos proches. Cet homme s'appelle Barabbas. Par la seule volonté de Ponce Pilate, Barabbas va pouvoir partir libre comme l'air. Il ne peut sortir libre que parce qu'un innocent, Jésus, va mourir à sa place. Imaginez ce qui a pu se passer dans sa tête quand il s'en est rendu compte. Peut-être s'est-il dit que Jésus, juste, n'avait pas eu de bol. Peut-être s'est-il senti coupable comme tant de personnes qui survivent à un événement grave. Peut-être a-t-il pensé qu'il avait une dette envers Jésus. Peut-être même A-t-il cherché à se renseigner sur lui? Peut-être a-t-il appris 3 jours plus tard que Jésus est ressuscité. Avec des scies et des mets, on mettrait mes reins en bouteille. Mais si jamais Barabbas s'est dit, c'était sa vie pour la mienne, sa mort pour la mienne, alors il a certainement été changé. Je conclus. Moi, j'ai une dette envers Jésus, de la même nature. C'était sa mort pour la mienne, sa vie pour la mienne, le grand pardon. Je ne peux pas rester comme avant. J'ai changé. Je veux continuer à changer, à vivre du pardon, puis à le pratiquer. Et toi, pardonne-nous nos offenses. Ce n'est pas juste. C'est une générosité inouïe qui se déploie. Le pardon, c'est divin. Amen.
Le pardon du Christ nous renvoie aussi à notre manière de pardonner, de nous pardonner nous-mêmes parfois et de pardonner aux autres. Alors je vous invite à vous lever et à le prier ensemble au travers du Notre Père qui nous invite entre autres justement à vivre ce pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous allons récolter l'offrande. Twint ou un virement, c'est pratique. Mais vivre ensemble ce temps de don, partager ensemble ce geste, a aussi une portée d'engagement communautaire. Et c'est justement ce qui permet de faire vivre notre Église. Alors dans ce sens, je vous invite aussi à chanter « Jésus, je te suivrai » comme un nouvel engagement ou comme la suite de, notre marche avec lui, quelles que soient les circonstances. « Jésus, je te suivrai ».
Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh.
Oh Jésus, je te suivrai, car tu es mort.
Car tu es mort pour moi. Je Jésus, je te suivrai.
Seigneur, je veux avancer à ta suite. Merci pour ton pardon et parce que chaque fois que je me plante, tu restes présent et tu m'aides à me relever. Merci de pouvoir partager une partie de mes biens, de nos biens, même si des fois les fins de mois peuvent être difficiles. Peu importe ce que nous arrivons à mettre de côté pour toi, que tu le fasses fructifier pour que ton royaume avance dans nos vies et autour de nous. Amen. Alors je propose de rester debout pour la bénédiction, la fin de cette partie, après quoi nous écouterons encore un musical pour la sortie de cette partie du culte.
Je lis dans la suite du psaume 85, « Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. » Oui, son aide est toute proche pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. La bonté et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre. La justice descend des cieux. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses produits. La justice marche devant le Seigneur et trace le chemin devant ses pas.
Il donne la paix, son aide est proche, il donne le bonheur. Alors que nous puissions être témoins de sa bonté, de sa vérité, de son pardon et de sa justice autour de nous, tout au long de nos semaines. Allez en paix, soyez assurés de sa bénédiction.
De Merin, le groupe de louanges Portus concluait le culte ce dimanche. Ce matin, c'est le pasteur Philippe Anchaud qui apportait le message. La liturgie était conduite par Joël Dupertuis. prions les musiciens, bien sûr. Alexia Wenger à la voix, Mathieu Schmitt, voix et guitare, Clément Baralga, guitare, basse, Sylvain Wenger au piano et Philippe Sewell à la batterie. Pour la partie technique, c'est Laurent Deschanel et Mathieu Ranzauer qui assuraient. Cathy Nicolas est notre attachée de production. Pour réécouter ce culte ou pour relire la prédication, bien, vous pouvez vous rendre sur le portail celebrer.ch ou alors sur le play RTS à l'enseigne du culte radio. Mais vous pouvez aussi prendre contact avec nous en laissant un message sur le répondeur 058 236 66 22. Si vous avez donc des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas, 058 236 66 22. Dimanche prochain pour le culte, nous vous donnons rendez-vous à 10h sur RTS Espace 2, bien sûr, en direct de l'église française de Bâle. Ce sera avec le pasteur Michel Cornu. Et tout de suite, dans votre poste de radio, c'est Babel. Ce dimanche, il sera question du martyr, de ces personnes tuées pour leur foi ou plus récemment pour leurs idées, un entretien avec le jeune historien français Pierre Delpu. Mais il va être 11h d'ici quelques secondes, l'heure de se quitter, de se dire bon dimanche à toutes et à tous.
Bravo. Vous pouvez vous détendre.
Comme je vais devoir partir assez vite, je vous dis merci beaucoup, beaucoup. C'était très bien, très beau, très réussi. Belle prédication. Et encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Si vous voulez vous réécouter, je viens de donner le site internet où vous trouverez dès demain matin l'enregistrement et le texte de la prédication, pour autant que Philippe nous l'envoie. Et voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir et de se revoir. Et si vous avez envie, n'hésitez pas, 058 236 66 22. Bon dimanche.
Merci beaucoup.
Alors, comme dimanche passé pour ceux qui étaient là, encore quelques petites annonces. Et puis, si vous l'avez peut-être vu dans l'actu Mérin, Rebecca viendra tout à l'heure avec les enfants. Elle nous donnera un court retour de ce qu'elle a vécu au Nigeria. On s'est dit qu'on allait profiter de faire ça assez vite après son retour, avant que voilà, trop de temps passe. Et puis en plus, vu qu'on finit assez tôt, c'est culte radio diffusé, c'était le moment de le faire. Donc voilà, elle va nous rejoindre tout à l'heure, normalement. En attendant, je fais 2-3 annonces. Donc, mardi, c'est la reprise des ateliers bibliques qui ont été pas mal chamboulés avec tout ce qui est arrivé à notre pauvre pasteur. Donc voilà, on reprend là où on s'était arrêté. Donc le programme reprend avec ce qu'on aurait dû faire il y a quelques semaines, c'est-à-dire le thème des finances et des bâtiments de notre église. Donc mardi soir. Dimanche prochain, vous devriez aussi le savoir, c'est le culte du réseau évangélique Genevois. On vous encourage fortement à participer si vous le pouvez. Mais on a aussi prévu une réunion ici pour ceux qui soit ne peuvent pas y aller ou alors qui n'ont juste pas envie de participer à cela. Il y aura aussi un petit quelque chose ici. On pensait aussi à ceux qui peut-être voilà, arriveraient devant notre porte, voulant visiter notre église. On trouvait dommage qu'il n'y ait rien. Donc il y aura quelque chose ici et il y aura aussi le culte du réseau angélique à Palexpo. Les deux seront à 10h. Voilà. Maintenant, j'aimerais inviter Annick à venir nous partager une nouvelle initiative. Qu'est-ce que tu préfères comme micro ?
Bonjour. Voilà quelques temps avec Claire Lisserex et moi-même. On a une petite idée qui a germé dans nos têtes, qui a fait son chemin. Et je vous la livre là succinctement maintenant. On a eu l'idée de regrouper toutes les personnes qui avaient envie de tricoter ou de crocheter et de faire un petit rendez-vous le lundi, une fois, deux fois par mois, pour se retrouver autour d'un café ou d'un thé et pouvoir faire jouer nos aiguilles et faire chanter nos laines. Alors vous êtes tous bien cordialement invités. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge, hein, vous pouvez tous venir. Ça se passera donc, le premier se passera le lundi 17 février, entre 15h30 et 18h30 dans la salle d'accueil en bas. Voilà, si vous avez besoin d'autres renseignements, je suis à votre disposition. Et je me réjouis de pouvoir partager ces moments avec vous. Merci.
Merci beaucoup. Philippe voudrait ajouter quelque chose.
Ouais, tu comprends bien. J'aimerais juste remercier encore une fois celles et ceux qui ont rendu ces cultes radiodiffusés possibles. Il y a quelques contraintes. Merci d'avoir joué le jeu. Mais merci aussi voilà, au président du jour, Joël, à Raymond et Laurent, à la technique, à notre équipe musicale. Peut-être juste l'occasion de dire, il y a de la place dans cette église pour vous investir dans ces domaines et dans d'autres. N'hésitez surtout pas à venir nous trouver, Thierry, Rebecca ou moi. Il y a de la place pour que des dons, des talents s'exercent pour le bien de notre Église et l'honneur de Dieu. Merci.
Merci. Encore deux rappels rapidement. Le 23 février, c'est le dernier délai pour rendre vos feuilles avec vos suggestions pour les futurs membres de notre conseil. Donc le groupe du GRC, le groupe du renouvellement du conseil, attend vos réponses. Si jamais à l'arrière, juste derrière Boris, là-bas, il y a une boîte pour ceux qui aimeraient mettre des feuilles papier. Puis sinon, vous pouvez renvoyer tout ça aussi par email à l'adresse du GRC. Si vous l'avez oublié, contactez-nous et on vous mettra en lien ou bien on fera passer. Voilà. Et puis aussi, vous l'avez vu, j'espère, dans la Cumérin, mais notre prochain colloque est confirmé. Le 28 mars à 19h30, on essaie de ne pas faire trop tard, on sait que c'est un défi hein, pour certains de sortir le soir. Voilà, on espère qu'un maximum de gens peuvent venir à cette heure-là pour notre prochain colloque. Je laisse maintenant la place à Rebecca et bienvenue de retour parmi nous les enfants.
Pardon. Ok. Tu verras pas ce que c'est. Moi. Alors, j'essaye de mettre des mots sur ce que j'ai vécu ces trois dernières semaines. J'étais en voyage missionnaire en Nigeria. J'étais arrivée à Abuja. Vous voyez là au milieu, il y a un grand truc à Abuja avec une étoile rouge. Je suis partie depuis Francfort et on est arrivée le soir. Et le lendemain, après avoir passé une nuit à l'hôtel, on est parti 6 heures dans la voiture pour arriver à Jos. Jos, c'est un plateau, c'est au nord. Et bien sûr, le nord, il était bien touché par Boko Haram. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous connaissez le mot Boko Haram. Et en fait, pendant ce voyage-là, il y avait plus que 20 contrôles, des points de contrôle de la police, où voilà, il regardait les voitures et il faisait sûr qu'il n'y a pas des terroristes parmi nous, mais nous, on a pu passer assez facilement entre ces points, mais c'était quand même un très long voyage juste pour arriver au point où on a fait notre séminaire. Ça, c'était mon équipe. On était une équipe de 9. Il y avait 2 dames des États-Unis, une allemande, 3 de Sénégal. Et il y avait 2 dames de Kenya et moi-même. Et on était là pour donner une formation qui s'appelle « Honneur aux enfants ». C'est un séminaire qui dure 4 semaines et on fait toujours 2 semaines et après on fait plus tard 2 autres semaines. C'est fait pour les gens qui travaillent avec les enfants qui sont dans des situations de précarité, genre les enfants qui vivent dans la rue, les enfants qui sont orphelins. Et il y a encore plein d'autres options. Il y a plein de gens qui travaillent avec plein de différents enfants que je ne vais pas nommer ici. Mais on fait ça exprès pour eux, pour qu'ils puissent se libérer de leur ministère pendant 2 semaines, pour être formés, pour être mieux équipés, et après retourner et utiliser ce qu'ils ont appris directement sur le terrain et revenir plus tard pour finir la formation. Alors, pendant le séjour, là, ces 2 semaines, on a abordé des sujets comme les intentions de Dieu pour les enfants, les bases bibliques, comment écouter les enfants, le développement de l'enfant, le traumatisme, c'était un jour qui était très intense. Je vous raconterai plus tard un peu. La résilience et la croissance spirituelle d'un enfant. Alors vous voyez, on a eu plein différents thèmes et j'ai que touché quelques-uns. Et avec notre équipe, on était vraiment très occupés pendant ces 2 semaines. Ça a commencé à 8h du matin avec une réunion. On a fait jusqu'à midi avec des cours, avec nos 50 participants qu'on avait. Et on avait une petite heure à midi pour se reposer, plus ou moins. Et après, ça continuait jusqu'à 16h30 avec les cours, suivi de nouveau par une heure de réunion. Vers 17h30, on était enfin fini pour la journée. Mais comme vous voyez, il fallait encore préparer pour le lendemain parce qu'on a besoin de pâte à modeler ou je ne sais pas quoi d'autre. Alors, on faisait plein de choses en arrière de la classe aussi pendant les 2 semaines. Là, vous voyez tous nos étudiants. On ne les appelait pas étudiants, on les appelait des participants parce qu'on voulait participer avec eux. Eux, ils ont pu nous poser des questions, nous dire comment ils vivent les choses dans leur culture, parce que nous, de l'extérieur, on ne connaît pas tout. Alors, c'est des participants. Mais on avait 49 et on avait de tout. On avait des gens qui travaillaient dans une maison qui s'appelle la maison de crise, littéralement, Crisis Home. Là, il y a 200 enfants qui vivent là, sur le centre où on était. Et c'est en fait, les parents sont des missionnaires dans des pays et des régions très perdues. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Du coup, ils ne préfèrent pas de prendre les enfants dans des situations violentes et dangereuses et ils les laissent sur ce centre-là. Alors, il y a d'autres gens qui prennent soin de ces enfants. Et nous, on avait une vingtaine de cette personnel qui était avec nous. C'est 2 semaines. On a eu des gens qui travaillent dans des orphelinats. On avait beaucoup d'enseignants, parce qu'il y a aussi une école avec, je crois, 800 étudiants qui sont là sur le centre. Mais aussi des gens, des missionnaires, des pasteurs et des gens qui travaillent avec l'école de dimanche. Alors, pendant ces 2 semaines, on n'a pas eu que des cours. Comme vous voyez sur les photos, on a vraiment essayé de changer un peu la manière d'enseigner. C'était beaucoup d'activités avec les mains. On fait des sketchs, on a fait des danses pour montrer qu'en fait, il y a d'autres manières d'apprendre que d'être juste assise et écouter. On a amené des activités pour qu'eux, ils puissent les amener après pour faire avec leurs enfants. La manière de les écouter, s'ils ont vécu un traumatisme ou un trauma, comment est-ce que je peux les aider à travailler cela? Là, on a appris sur le cerveau. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils ont appris comment le cerveau fonctionne, quels sont les effets en fait sur un truc négatif. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est moi qui ai enseigné, j'ai travaillé sur les clés de la résilience, que en fait, de regarder quelqu'un dans les yeux, ça, c'est très important et pour eux, ça ne se fait pas dans la culture. Un enfant n'ose pas de regarder les parents dans les yeux, mais de montrer qu'en fait, je te vois, tu es important pour moi, tu comptes, tu as de la valeur, de les pour eux, d'entendre cela, ça a beaucoup marqué. Et c'était rigolo de les voir, d'essayer de faire cet exercice. Juste 30 secondes. Mais ça suffit de les mettre un peu mal à l'aise. Et on a aussi parlé des câlins. Moi, j'aime beaucoup ce thème. Je dis à Thierry souvent que j'ai besoin de mes 12 câlins par jour pour être sur le meilleur de moi-même. Et on a fait un exercice et ils ont dû donner des câlins dans la classe. Et d'abord, c'était très hésitant. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose pas? Et finalement, on n'arrivait presque plus à les arrêter. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, « Ah, je vais avoir un 20e câlin là, je fais le plein de tout. » Et en fait, finalement, c'était, dans notre culture, on ne se fait pas des câlins. Il y a une fille qui était là avec son papa. Elle a, 25 ans. était là, c'est la première fois que j'ai reçu un câlin de mon papa. C'était pendant ce cours-là, parce que lui, il était aussi là, il était aussi participant. Et d'autres qui sont là, ok, je vais rentrer et je vais commencer à faire des câlins à mon enfant, parce que je sais que c'est important, que ça aide au développement pour mon enfant. Alors, juste ça, c'était génial. On faisait des sketchs, comme vous voyez là, pour montrer ce qui se passe dans le cerveau, dans le comportement, surtout là, c'était les ados. C'était moi qui étais très mal à l'aise pendant ce sketch-là, mais c'est autre chose. On a eu un cours de, artistique où ils ont pu créer pendant une après-midi, un samedi, de ce qu'ils ont vécu, où ils ont maintenant, où ils aimeraient aller, de nouveau pour avoir quelque chose pour ramener à la maison. Et un participant était très clair, il était là, en fait, moi j'aimerais ramener ça à la maison, j'ai redécouvert à quel point j'aime dessiner. Et en fait, il a vraiment un don, j'ai vu, j'étais à waouh. Ça fait très très longtemps qu'il n'a plus dessiné parce que pour lui ça faisait plus sens. Et maintenant il veut rentrer et commencer un cours d'art pour les enfants où il travaille. Il est un missionnaire entouré des musulmans et il aimerait créer des liens avec ces gens à travers de l'art et parler et tout. Et je trouve ça génial. Et il y a une dame qui a appris qu'en fait, sa manière en tant qu'elle a élevé ses enfants n'était pas la meilleure manière de faire avec. Malheureusement, en Nigeria, ça nous a frappé de plus. La violence physique était très, très présente aussi dans la famille parce qu'ils utilisent toujours la phrase « oui, mais on ne peut pas épargner un enfant d'être puni parce que ça les rend forts ». Leur croyance qu'il faut que je les tape parce que sinon ils ne vont pas être forts, ils ne vont pas m'obéir. Et là, on a eu des très, très grandes discussions. Mais cette dame, elle a réalisé que ce qu'elle faisait, ce n'était pas juste. Elle est rentrée, elle s'est excusée auprès de son enfant. Elle a dit, tu as le droit de me dire si je fais telle et telle chose faux. Et j'aimerais changer. Et c'était pas la seule que j'ai entendue qu'ils disent « Ok, je suis rentrée le soir et je me suis excusée auprès de mon enfant. » Juste ça, j'étais là « Ok, waouh !» Juste pour ces deux semaines, on a vu tellement de changements. On a entendu aussi des papas qui sont rentrés et que la maman était là « T'es pas comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines quand t'étais loin ?» Et même l'enfant, il a remarqué que son papa a changé. Et ça, c'est génial. Alors nous, on était, pendant ces deux semaines, on était sur un centre qui s'appelle Wourin Alheri. C'est le lieu de gentillesse. Et en fait, c'était, comme je vous ai dit, dans la zone de Boko Haram qui était très, très actif. Et les responsables, ils ont pu acheter ce terrain, je crois, avant 2009. Et c'était juste là, la saison où il y a Boko Haram qui était très actif. Alors, je vous épargne tous les détails que j'ai entendus parce que déjà quand je les ai entendus avant de partir, ça ne m'a pas donné envie de partir parce que j'étais là, oulala, oulala, qu'est-ce qui va m'arriver là? Mais, en gros, ils se sont installés là, au milieu des Fulani. C'est des tribus qui amènent des troupeaux de bétail et ils se baladent. Et ils ont certains qui commencent à être un peu plus installés, mais bien sûr, il y a plein de tensions. Et à un moment donné, il y avait même des tanks militaires qui étaient d'une côté de leur propriété, et de l'autre côté, il y a d'autres armées qui se sont installées, se trouvaient pile poil au milieu. Alors, la tension qui était là pendant longtemps, c'était intense. Les histoires qu'on entendait pendant toutes ces deux semaines, il n'y avait personne qui était épargné de violence, de la guerre. La guerre est encore très présente parce qu'ils espèrent. En fait, Boko Haram, le but, c'est de détruire la société en touchant les écoles et les étudiants. Et ils ont réussi. Nigeria est très, très riche, mais il n'y a plus rien. Les gens, ils n'ont pas le travail. Tout est utilisé ailleurs, les routes sont dans un état pas possible. C'est pourquoi ça nous a pris 6 heures avec tous les trous et tout. C'est pour le fait que c'est le pays le plus grand de l'Afrique avec 250 millions d'habitants. On ne voit pas qu'ils ont, ils ont toutes ces richesses qu'ils ont. Mais Wourine Alheri, ils ont 1800 personnes qui vivent sur le centre et les responsables, ils les nourrissent, les 1800 personnes, tous les jours. Et vu que personne, l'économie est tellement mauvaise, il n'y a personne qui peut participer financièrement. Tout est gratuit, tout est mis à disposition. Là, c'est le Collège de la Bible. Ils ont plus que 900 étudiants qui viennent sur un cursus de 2 ans avec des cours qui commencent à 5 heures du matin avec des travaux pratiques, avec lecture, école, truc, machin, bidule. Et en fait, ça finit à 10 heures du soir. Alors, ils ont non-stop. Non-stop, ils ont là. Vous voyez, ça, c'est leur salle de classe qui est archi plein. En haut et en bas, et à gauche et à droite, c'est les dortoirs. Alors, tout est sur place, les 900 étudiants, et ils les envoient après dans les régions tellement perdues qu'en fait, ils doivent apprendre à comment réparer une moto, parce qu'ils espèrent que chacun peut savoir un moto pour se déplacer. Ils doivent apprendre les premiers secours, parce qu'il n'y a rien là, il n'y a pas d'hôpital ou rien, et des bases pour faire pousser des choses sur leur terrain où ils habitent après. La fertilisation ou quelque chose. Alors, ça, c'est juste les bases, parce qu'après, ils ont plein de cours encore. Et entre autres, ils apprennent à comment travailler avec les musulmans et les chrétiens pour diffuser les tensions, pour médier, pour créer des liens avec leurs amis musulmans. Parce qu'ils ont même des centres de... ordinateurs, en fait, plus que 10 centres. Et là, ils forment les chrétiens et les musulmans l'un à côté de l'autre. Et ils ont vu qu'avec ces centres-là, ils ont diffusé beaucoup de soucis parce que les gens se connaissent, ils sont des amis. Et du coup, après, il y a beaucoup moins de violence parce qu'ils sont là, ben, en fait, c'est mon ami chrétien, mais c'est mon ami, je ne vais rien lui faire. Alors même si Boko Haram essaye de les encourager, de faire quoi que ce soit, en fait, ils en ont. C'est mon avis, je ne vais rien faire. Alors, ça les a beaucoup aidés, juste les relations qu'ils ont commencé à créer dans les environs. Ça, c'était ma maison qui était toute neuve. Ils viennent de le finir l'année passée et c'était un vrai bonheur de pouvoir être dans cet endroit-là après les journées très chargées. Mais je trouvais ça impressionnant de voir que ce couple, en fait, ça fait maintenant 40 ans qu'ils vivent en Nigeria. Ils nous ont mis tout à disposition, on n'a rien dû payer, c'était tout là. On a eu un imam musulman qui était responsable pour notre côté technique et il nous a aidés, il était vraiment souriant, il nous a aidé n'importe avec quel problème qu'on avait, on savait qu'on pouvait aller vers lui et il nous aidait. Et de voir pratiquement comment ils ont fait pour vraiment créer des liens entre les musulmans et les chrétiens dans la région, c'était super à voir. Et quand ils sont arrivés en 2009, il n'y avait apparemment pas un arbre dans la région. Là, on a pu manger des oranges chaque matin qui venaient de leur jardin, ils ont des manguiers, ils ont les bananiers, vous voyez comment ça va être un peu vert. Et c'est vraiment, chaque année, ils plantent des arbres, ils les prennent soin. Et c'est apparemment aussi chaque année, il y a un nouveau bâtiment qui va être créé parce qu'ils ont tellement de besoins. Avec ces 200 enfants, plus les mamans qui vivent là avec leurs enfants, etc., etc. Alors il y a vraiment un immense besoin. Et on a vu les effets qu'il y avait ce séminaire. Et il y a la suite, potentiellement en juin. On discute encore comment et quoi. Mais en juin, peut-être, il y a nouveau un voyage qui se prépare. Mais tout ça, ça n'aurait été pas possible si le conseil ne m'aurait pas libéré. Si les potes, les monos pour les potes n'auraient pas assuré que moi j'ai pu partir et que mon mari surtout n'aurait pas gardé mes 4 enfants et que j'étais vraiment tranquille, je savais qu'ils ont bien occupé, ils ont bien pris en charge. Alors merci à tout le monde et merci pour vos prières qui étaient très très appréciées.
Voilà. Bon dimanche à chacun, à chacune, à tout à l'heure pour le café. C'est le café.
Et comment c'est la forme maintenant ?
Ça va ? T'es en
forme ? Ouais.
La solitude.